Chapitre 31. Je vous ai menti. J'ai dit au début de ce récit que je n'étais pas avec elle quand le destin d'Aînée s'accomplit, ce qui sous-entendait que j'ignorais quel avait été ce destin. Et je l'ai répété il y a quelques périodes de sommeil quand je scriptais ce qui, j'en étais certain, devait être le dernier épisode de cette même narration. Mais j'ai menti par omission, comme dirait un prêtre de l'Église. J'ai menti parce que je n'avais pas envie d'en parler, de le revivre, d'y croire. Mais je sais maintenant que je dois faire tout cela. Je l'ai revécu à chaque heure de mon incarcération dans ce quasi-achat de Schrödinger qu'est ma prison. J'y ai cru depuis que j'en ai partagé l'expérience avec mon ami chéri, mon aîné bien-aimé. Je savais, avant qu'il m'expédie hors du système de Passem, ce qu'avait été le destin de ma chère femme. Y ayant cru, l'ayant revécu, je dois à la véracité de ce récit et au souvenir de mon aimé d'en parler et de le décrire. Tout cela m'a été révélé pendant que j'étais drogué et docile, attaché dans un réservoir à jet élevé, à bord de la navette robot, une heure après mon procès de 10 minutes devant l'Inquisition sur un astéroïde de la Pax, à 10 minutes-lumière de Passem. J'ai su, dès que j'ai entendu et senti et vu ces choses, qu'elles étaient réelles, qu'elles arrivaient au moment où je les partageais, et que seul mon degré d'intimité avec Aîné et mes lents progrès dans l'apprentissage du langage des vivants me permettaient une participation si forte. Quand ce fut fini, je me mis à hurler dans mon réservoir. J'arrachais les ombilicaux des équipements de survie et donnais de grands coups de tête et de poing dans la cloison, jusqu'à ce que mon sang tournoie dans le réservoir plein d'eau. J'essayais d'arracher le masque à osmose qui recouvrait mon visage comme un parasite suçant ma respiration, mais il ne voulut pas se déchirer. Pendant 3 heures pleines, je criais et protestais en me frappant moi-même dans un état de semi-conscience, revivant 1 millier de fois les instants partagés avec Aîné et hurlant de souffrance 1 millier de fois. Puis le vaisseau robot m'injecta des somnifères par les ombilicaux semblables à des sangsues, le réservoir en jet élevé se vida, et je perdis conscience en fût cryotechnique tandis que le vaisseau torche atteignait le point de translation qui lui permit de sauter jusqu'au voisinage du système d'Armagast. Je me réveillais dans la boîte à chat de Schrödinger. Le vaisseau robot m'avait embarqué dans le satellite d'énergie vitrifiée et lancé sans intervention humaine. Durant quelques instants, je restais désorienté, croyant que les moments partagés avec Aîné avaient été un cauchemar. Puis la réalité de ces faits ressurgit et je recommençais à hurler. Je crois que je ne retrouvais pas la raison avant plusieurs mois. Voici ce qui me rendit fou. On avait aussi sorti Aînée, ensanglantée et inconsciente, de la basilique Saint-Pierre, mais au contraire de moi, elle se réveilla le lendemain, ni droguée ni transférée. Elle reprit conscience, et je partageais ce réveil plus clairement que je ne me souvins du mien. Il fut pour moi aussi réel et distinct qu'un second ensemble d'impressions sensorielles, dans cette immense salle de pierre ronde, d'une 30aine de mètres de diamètre, dont le plafond s'élevait à 50 mètres au-dessus de la grille qui en constituait le sol. Une vitre dépolie luisait au plafond et donnait l'impression d'être une lucarne, mais Aîné devina qu'il s'agissait d'une illusion et que la pièce était profondément enfouie dans un bâtiment plus vaste. Pendant que j'étais inconscient, les médecins m'avaient lavé pour mon procès de 10 minutes, mais personne n'avait touché aux blessures d'Aîné. Le côté gauche de son visage était douloureux, bouffi par les meurtrissures. On lui avait arraché ses vêtements et elle était nue, les lèvres enflées, l'œil gauche presque fermé. Elle ne pouvait voir de cet œil qu'en faisant des efforts, et la vision de son œil droit était floue à cause de la commotion cérébrale. Sa poitrine, ses cuisses, ses avant-bras et son ventre étaient constellés de balafres et de contusions. Du sang coagulé avait refermé certaines de ses coupures, mais quelques-unes, suffisamment profondes, exigeaient des points de suture que personne n'avait effectués. Elle saignait toujours. Aîné était attaché dans ce qui semblait être une charpente de fer rouillé, constituée de traverses de métal et accrochée au plafond par des chaînes, qui lui permettaient de s'adosser et de reposer son poids contre elle, mais la gardait presque debout, les bras maintenus sur des poutrelles rouillées, astérisques de froid métal suspendus en l'air, auquel ses poignets et ses chevilles étaient cruellement fixés et boulonnés. Ses orteils se trouvaient à 10 centimètres au-dessus du sol grillagé. Elle pouvait bouger la tête. La pièce ronde était vide, sauf ce chevalet et 2 autres objets. Une grande corbeille à papier posée à droite du fauteuil. Il y avait un sac en plastique dedans. Et près du bras droit de l'astérisque, un plateau de métal rouillé portait différents instruments. D'anciens crochets et tenailles de dentiste, des lames circulaires, des scalpels, des scies chirurgicales, un long forceps, des morceaux de fil de fer barbelé tous les 3 centimètres, des cisailles à longue lame, d'autres plus courtes et dentelées, des bouteilles contenant un liquide noirâtre, des tubes de pâte, des aiguilles, du fil épais et un marteau. La grille ronde de 2,5 mètres de diamètre qui se trouvait en dessous d'elle était encore plus inquiétante car Aînée pouvait voir au travers de minuscules flammes bleues brûlant comme des veilleuses. Une faible odeur de gaz naturel en émanait. Aînée testa ses liens. Ils ne cédèrent absolument pas et ses tentatives réveillèrent des élancements de douleur dans ses poignets et ses chevilles meurtries. Elle appuya la tête contre la poutrelle de fer pour attendre. Ses cheveux sur la nuque étaient emmêlés. Elle sentit une énorme bosse au sommet de sa tête et une autre presque à la base de son crâne. Elle avait mal au cœur et dut faire des efforts pour ne pas vomir. Au bout de quelques minutes, une porte dissimulée dans la pierre s'ouvrit. Radamante Némès entra et vint se poser au-delà de la grille, à la droite d'Aînée. Une seconde Radamante Némès prit place à la gauche d'Aînée. 2 autres Némès arrivèrent et s'installèrent un peu plus loin. Elles ne parlèrent pas. Aînée ne leur parla pas. Quelques minutes plus tard, le cardinal John Domenico Mustafa apparut, son image holographique miroitante se solidifia juste devant Aînée. L'illusion de sa présence physique était parfaite, sauf que le cardinal devait être assis dans un fauteuil qui n'était pas représenté dans l'hologramme, ce qui donnait l'impression qu'il flottait dans l'air. Mustafa semblait plus jeune et en meilleure santé que sur Tian Shan. Quelques secondes plus tard, il fut rejoint par l'image d'un cardinal plus massif en robe rouge, puis par celle d'un prêtre maigre, l'air tuberculeux. Un moment après, un homme grand et beau, vêtu de gris, franchit la porte matérielle dans le mur du cachot matériel. Mustapha et l'autre cardinal demeurèrent assis dans leur fauteuil invisible, tandis que Lolo du Monsignor et l'homme en gris présent physiquement restaient debout derrière eux, comme des domestiques. « Madame, dit le grand inquisiteur, permettez-moi de vous présenter le secrétaire d'État du Vatican, son éminence le cardinal Lourd du Samy, son assistant, Monsignor Luca Oddi, et notre estimé conseiller Albedo. « Où suis-je ? Demanda Aînée. Elle dut répéter la phrase tant ses lèvres étaient enflées et sa mâchoire meurtrie. Le grand inquisiteur sourit. Pour le moment, nous répondrons à toutes vos questions, ma chère. Puis vous répondrez aux nôtres. Je m'en porte garant. Vous êtes dans la plus profonde salle d'entretien du château Saint-Ange, sur la rive droite du Tibre, près du Ponte Sant'Angelo, au voisinage du Vatican, toujours sur le mont de Passem.
Où est Roll ?
Roll ? Oh, vous voulez dire votre garde du corps quelque peu incompétent. En ce moment, je crois que sa propre entrevue avec le Saint-Office est terminée, et il se trouve à bord d'un vaisseau qui se prépare à quitter notre beau système. Est-il important à vos yeux, ma chère? Nous pourrions nous arranger pour le ramener au château Saint-Ange.
Il ne compte pas pour moi, murmura Aînée.
Après ma première seconde de chagrin et d'angoisse, je sentis ces pensées sous-jacentes. Inquiétude pour moi, terreur pour moi, espoir qu'il ne m'utiliserait pas pour la contraindre à répondre. « C'est comme vous voulez, » dit le cardinal Mustapha. « C'est vous que nous désirons interroger aujourd'hui. Comment vous sentez-vous ? » Aînée le contempla de son bon œil. « Bon, on ne peut pas espérer s'attaquer au Saint-Père dans la basilique Saint-Pierre, et s'en tirer impunément. » Aînée marmonna quelque chose. « Pardon, ma chère ? Nous n'avons pas bien entendu. » Mustapha souriait un peu, expression malicieuse et mauvaise, pleine de suffisance, d'un crapaud.
« Je n'ai pas attaqué le pape. »«
Si vous insistez, madame. »
Mais vos intentions ne semblaient pas amicales. Qu'aviez-vous l'intention de faire lorsque vous avez descendu en courant l'allée centrale en direction du Saint-Père?
L'avertir.
Une partie de son esprit évaluait ses blessures, tandis qu'elle écoutait le bavardage du grand inquisiteur. De sérieuses meurtrissures, mais rien de cassé. L'estafilade de l'épée sur sa cuisse nécessitait des points de suture, ainsi que la balafre en haut de sa poitrine. Mais quelque chose n'allait pas dans son système. Une hémorragie interne? Elle ne le pensait pas. On lui avait administré un produit par injection.
L'avertir de quoi?
Demanda le cardinal Mustapha d'un ton mielleux. Aîné bougea la tête pour regarder, de son bon œil, le cardinal Lourdussami, puis le conseiller Albedo. Elle ne dit rien.
L'avertir de quoi?
Insista le cardinal Mustapha. Comme Aîné ne réagissait pas, le grand inquisiteur fit un signe de tête au clone de Némès le plus proche. La femme pâle marcha lentement jusqu'au fauteuil d'Aîné, s'empara du plus petit des deux ciseaux, parut changer d'avis, reposa l'instrument sur le plateau, se rapprocha, mit un genou sur la grille, près du bras droit d'Aîné, se pencha sur le petit doigt de mon aimé et l'arracha d'un coup de dent. Némès sourit, se releva et cracha le doigt saignant dans la corbeille à papier. Aîné cria de surprise et de douleur et se pâma à demi sur l'appui-tête. Némès fit sortir de la pâte coagulante du tube et l'étala sur le moignon du petit doigt d'Aîné. Le holo du cardinal Mustapha prit un air triste.
« Nous n'avons aucun désir d'administrer de la douleur, ma chère, mais nous n'hésiterons pas à le faire. » Il faut répondre rapidement et franchement à nos questions, ou d'autres parties de votre corps finiront dans la corbeille. Votre langue sera la dernière à y aller.
Aîné lutta contre la nausée. La douleur de sa main mutilée était inimaginable. À 10 minutes-lumière de là, je hurlais du choc en retour.
J'allais avertir le pape de... votre coup d'état!
Dit Aîné, haletante, en regardant toujours Lourdussami et Albedo.
De sa crise cardiaque.
Le cardinal Mustapha cligna des yeux de surprise.
Vous êtes vraiment une sorcière, fit-il d'une voix douce.
Et vous, un salaud et un traître,
rétorqua Aîné d'une voix forte et claire.
Vous l'êtes tous. Vous avez vendu votre église. « Maintenant, vous vendez votre marionnette, Lénard Hoyt !»«
Ah ?»
s'esclaffa le cardinal Lourdussami. Il semblait un peu amusé.
« Comment faisons-nous cela, enfant ?»
Aîné désigna le conseiller Albedo d'un brusque mouvement de tête.
« Le centre contrôle la vie et la mort de tous les hommes par l'entremise du cruciforme. Les gens meurent quand le centre le veut. Les réseaux neuraux, lorsqu'ils meurent, sont plus créatifs que les vivants. Vous allez tuer le pape de nouveau, mais cette fois, sa résurrection échouera, n'est-ce pas ?
Vous êtes très perspicace, ma chère,
gronda le cardinal Lourdussami. Il haussa les épaules.
Peut-être est-ce le moment d'avoir un nouveau pontife.
Il leva les mains et un cinquième hologramme apparut derrière eux dans la pièce. Le pape Urbain XVI couchait dans un lit d'hôpital, plongé dans le coma. Entouré de religieuses soignantes, de médecins humains et d'appareils médicaux qui planaient au-dessus de lui. Lourdussami agita de nouveau sa main rondelette et l'image disparut.
« Vous voulez devenir pape ?»
dit Aîné, et elle ferma les yeux. Des taches rouges dansaient dans son champ de vision. Quand elle rouvrit les yeux, Lourdussami haussait les épaules d'un petit air modeste.
« Ça suffit comme ça !»
fulmina le conseiller Albedo. Il traversa les holos des cardinaux assis et s'arrêta au bord de la grille, devant Aîné.
« Qu'avez-vous fait pour manipuler le milieu d'Istrans ? Comment faites-vous pour vous distranslater sans portail ?»
Aîné regarda le représentant du centre.
Cela vous épouvante, n'est-ce pas, conseiller?
Comme les cardinaux qui ont trop peur pour venir ici en personne.
L'homme gris montra des dents parfaites.
Pas du tout, aîné. Mais vous avez la capacité de vous distranslater sans portail avec ceux qui sont près de vous. Son éminence le cardinal Lourdussamy et le cardinal Mustapha, ainsi que Monseigneur Oddi, n'ont pas envie de disparaître subitement de Passem avec vous. Quant à moi, je serais ravi si vous nous distranslatiez ailleurs.
Il attendit. Aîné ne dit rien. Elle ne bougea pas. Le conseiller Albedo sourit de nouveau.
Nous savons que vous êtes la seule qui ait appris comment faire ce type de distranslation,
fit-il d'une voix douce.
Aucun de vos prétendus disciples n'est sur le point d'en apprendre la technique. Mais en quoi consiste-t-elle, cette technique?
La seule manière que nous ayons trouvée d'utiliser le vide pour se distranslater, c'est de maintenir ouvertes des fissures permanentes dans ce milieu, et cela consomme beaucoup trop d'énergie.
Ils ne vous permettent plus de le faire,
murmura Aîné, clignant des yeux pour chasser les points rouges, afin de croiser le regard de l'homme gris. La douleur dans sa main s'élevait et retombait comme une longue houle sur une mer agitée. Le sourcil du conseiller Albedo se souleva imperceptiblement.
Ils ne nous permettent plus? Qui ça, il, enfant? Décrivez-nous vos maîtres.
Ce ne sont pas mes maîtres, murmura Aîné.
Elle dut se concentrer afin de réprimer le vertige qui s'emparait d'elle.
Les lions, les tigres et les ours,
chuchota-t-elle.
Plus de paroles ambiguës,
gronda Lourdussamy. L'homme gras fit un signe de tête au second clone de Némès qui s'avança vers le plateau, prit la paire de tenailles rouillées, vint s'emparer de la main gauche d'Aîné, la tint par le poignet, et arracha tous les ongles de ma bien-aimée. Aîné hurla, s'évanouit un moment, se réveilla, essaya de tourner la tête à temps, mais échoua, vomit sur elle et gémit doucement.
« Quand on souffre, il n'y a plus de dignité, mon enfant, »
dit le cardinal Mustapha.
« Racontez-nous ce que le conseiller souhaite savoir et nous mettrons fin à cette triste comédie. On vous sortira d'ici, on soignera vos blessures, votre doigt repoussera, on vous nettoiera, on vous habillera et on vous réunira avec votre garde du corps, votre disciple. Ce vilain épisode sera terminé. »
À ce moment, bien que la tête lui tournât sous l'effet de la terrible douleur, le corps d'Aîné était toujours conscient de la présence d'une substance étrangère injectée pendant qu'elle était inconsciente quelques heures plus tôt. Ses cellules la reconnurent. Du poison. Un poison sûr, lent, mortel, pour lequel il n'y avait aucun antidote. Il ferait son effet dans 24 heures et rien ne pourrait l'empêcher. Elle comprit alors ce qu'il voulait qu'elle fasse.
Et pourquoi ?
Aîné avait toujours été en relation avec le centre, même avant sa naissance, par l'entremise de la boucle de Schrön présente dans le crâne de sa mère qui la reliait à la persona hybride de son père. Cette boucle lui permettait d'entrer directement en contact avec les datasphères primordiales. Et elle le fit maintenant. Sentit la solide batterie de machines exotiques du centre qui tapissait cette cellule souterraine. Des instruments dans des instruments. Des senseurs qui dépassaient la compréhension humaine ou la description, des appareils qui travaillaient dans les quatre dimensions et plus et attendaient, reniflaient, attendaient. Les cardinaux, le conseiller Albedo et le centre voulaient qu'elle s'échappe. Tout était basé sur sa translation hors de cette situation intolérable. D'où le holodrame vulgaire de la torture, l'absurdité mélodramatique de ce cachot du château Saint-Ange et de l'inquisition impitoyable et cruelle. Ils allaient lui faire mal, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter, et quand elle se translaterait, les instruments du centre mesureraient tout. À un milliardième de nanoseconde, analyseraient son utilisation du vide, et trouveraient moyen de la copier. Pour finir, le centre aurait de nouveau des distrances, non comme de grossiers trous de verre ou à la manière de la propulsion Gédéon, mais des distances instantanées, élégants et éternellement à lui. Aîné ne tint pas compte du grand inquisiteur, passa la langue sur ses lèvres sèches, crevassées, et dit distinctement au conseiller Albedo
« Je sais où vous vivez. »
La bouche du bel homme gris se contracta. « Que voulez-vous dire ?»«
Je sais où est le centre.
Où sont les éléments physiques du centre ?»
Albedo sourit, mais Aîné vit le bref coup d'œil qu'il jeta sur les deux cardinaux et le prêtre.
« C'est absurde, » dit-il. « Aucun être humain n'a jamais connu la localisation du centre. »«
Au début ?»
tenta d'expliquer Aîné, d'une voix qui n'était que légèrement empâtée par la douleur.
« Le centre était une entité transitoire,
flottant dans la rudimentaire infosphère de l'ancienne Terre, connue sous le nom d'Internet. Puis, même avant l'Égire, vous avez emménagé vos mémoires à bulles, vos serveurs, votre connexion de mémoire à tor magnétique, dans un groupe d'astéroïdes en orbite longue autour du Soleil, loin de l'ancienne Terre que vous aviez prévu de détruire.
« Faites la Terre !»
dit Albedo d'un ton brusque en se retournant vers l'Urdusami, Mustapha et Oddi.
« Elle essaye de nous distraire de notre interrogatoire. Ce qu'elle raconte n'est pas important. »
L'expression des holos de Mustapha, de l'Urdusami et d'Oddi suggérait une autre estimation de ses propos.
« Pendant l'hégémonie, »
continua Aîné, la paupière de son bon œil battant à cause des efforts qu'elle devait faire pour concentrer son attention et garder le contrôle de sa voix dans les longues et lentes vagues de la douleur.
Le centre décida qu'il était plus prudent de diversifier ses composants physiques. Il enfouit profondément les matrices des mémoires à bulles dans les 9 mondes labyrinthiens, dissimula les serveurs du canal large dans les complexes industriels qui tournaient en orbite autour de Tossetti Central. Il fit voyager ses entités personnelles du centre dans les bandes com du Distrans et entrelaça la mégasphère qui reliait tout cela aux déchirures que le Distrans provoquait dans le vide Kili.
Albedo croisa les bras.
« Vous êtes folle !»«
Mais après la chute !»
poursuivit Aîné, en gardant sa bonne paupière ouverte et en défiant l'homme gris de son regard fixe.
« Le centre fut bien ennuyé !» L'attaque de Meina Gladstone contre le milieu Distrans vous donna à réfléchir, même si le dommage causé à la mégasphère était réparable. Vous avez alors décidé de vous diversifier encore plus, de miniaturiser vos personas, de miniaturiser les mémoires essentielles du centre et de parasiter les réseaux neuro-humains d'une manière plus directe.
Albedo lui tourna le dos et fit signe à la Némès la plus proche.
« Elle délire. Coule-lui les lèvres.
Non !»
ordonna le cardinal l'Urdusami. Les yeux de l'homme gras étaient brillants et attentifs.
« Ne la touchez pas jusqu'à ce que je vous l'ordonne !»
La Némès qui se tenait à la droite d'Aîné avait déjà pris une aiguille et une bobine de gros fil. La femelle au visage pâle s'arrêta et regarda Albedo, attendant ses instructions.
« Attends !» dit le conseiller.
« Vous vouliez que votre parasitisme neural soit encore plus direct ?»
fit Aîné.
Aussi les milliards d'entités du centre s'entourèrent d'une matrice en forme de cruciforme et s'attachèrent directement à vos hôtes humains. Chacune de vos individualités possède son propre hôte humain dans lequel elle vit et qu'elle détruit à volonté. Vous restez en contact par les anciennes infosphères et les nouveaux centres nodaux de la mégasphère à propulsion Gédéon, mais cela vous plaît de résider à proximité de votre source de nourriture.
Albedo rejeta la tête en arrière et rit, montrant des dents parfaites. Il ouvrit les bras et se retourna vers les 3 holos humains.
« C'est un merveilleux divertissement, » dit-il ricanant toujours. « Vous avez arrangé tout cela pour l'interroger ?»
D'une chiquenaude de ses ongles manucurés, il montra le cachot, la lucarne, les traverses sur lesquelles Aîné était attaché.
Et la fille finit par se jouer de vous. Pures inepties, mais merveilleusement distrayantes.
Mustapha, l'Urdusami et Oddi regardèrent plus attentivement le conseiller Albedo, mais leurs doigts holographiques touchaient leur poitrine holographique. L'image en robe rouge de l'Urdusami se leva de son fauteuil invisible et s'avança jusqu'au bord de la grille. L'illusion était si parfaite qu'Aîné entendit le léger bruit que faisait la croix pectorale pendillant à son cordon de soie rouge. Il était tressé avec un fil d'or et se terminait par une grosse touffe rouge et or. Aîné se concentra sur la croix qui se balançait et sur son cordon de soie pour ne pas prêter attention à la douleur atroce de ses mains mutilées. Elle sentait le poison se répandre tranquillement dans ses membres et son torse, telles les tumeurs et les nématodes d'un cruciforme en train de grandir. Elle sourit. Quoi qu'il lui ait fait, les cellules de son corps et de son sang n'accepteraient jamais le cruciforme.
C'est intéressant, mais sans rapport avec la question qui vous est posée, mon enfant,
murmura le cardinal Lourdussami.
Et ceci ?
Ses doigts courts et gras désignèrent ses blessures et sa nudité comme si cela le dégoûtait.
Est fort déplaisant.
Il se pencha plus près et ses petits yeux de cochon intelligent la sondèrent.
Et absolument pas nécessaire. Dites au conseiller ce qu'il souhaite savoir.
Aîné leva la tête pour plonger le regard dans les yeux de l'homme grand et gros.
Comment se translater sans distance ?
Le cardinal Lourdussami passa la langue sur ses lèvres minces.
« Oui, oui !»
Aîné sourit.
« C'est simple, votre éminence. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre quelques cours, apprendre le langage des morts, celui des vivants, apprendre à entendre la musique des sphères, puis communier à mon sang ou au sang de l'un de mes disciples qui ont bu le vin. »
Lourdussami recula comme s'il avait été giflé. Il leva sa croix pectorale et la brandit devant lui comme un bouclier.
« Blasphème ! »
beugla-t-il.
« Jesus Christus est primogenitus mortuorum, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum !»«
Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts !»
dit doucement Aîné, la lumière réfléchie par la croix aveuglant son bon œil.
« Et vous devez lui rendre gloire, et reconnaître sa domination si vous choisissez de le faire. Mais il n'a jamais voulu que les êtres humains revivent après la mort comme des souris de laboratoire soumises aux caprices de machines pensantes.
« Némès !»
dit sèchement le conseiller Albedo, et cette fois, il n'y eut pas de contre-ordre. La Némès qui était près du mur s'avança vers la grille, étendit des ongles de 5 centimètres et déchira les joues d'aîné de chaque œil jusqu'à la mâchoire, tranchant les muscles et exposant à la dure lumière les pommettes de mon ami chéri. Aîné poussa un long et terrible soupir et s'effondra contre la poutrelle. Némès se pencha plus près et montra ses petites dents pointues en un large sourire. Son souffle sentait la charogne.
« Arrachez-lui le nez et les paupières !»
dit Albedo.
« Lentement !»«
Non !»
cria Mustapha qui sauta sur ses pieds, se précipita et tenta d'arrêter Némès. Ses mains holographiques passèrent au travers de la chair trop dense de la créature.
« Un moment !»
ordonna le conseiller Albedo en levant un doigt. Némès s'arrêta, la bouche ouverte, au-dessus des yeux d'Aîné.
« C'est monstrueux !» dit le grand inquisiteur. « Comme la manière dont vous m'avez traité !»
Albedo haussa les épaules.
« Il a été décidé que vous aviez besoin d'une leçon, votre éminence. »
Mustapha tremblait d'indignation.
« Vous croyez vraiment que vous êtes nos maîtres ?»
Le conseiller Albedo soupira.
« Nous avons toujours été vos maîtres, votre chair pourrissante, vos cerveaux de chimpanzés, de primates baragouineurs qui se putréfient en route vers la mort dès la naissance. » Votre seul rôle dans l'univers était celui d'accoucheur d'une forme plus élevée de conscience. Une forme de vie vraiment immortelle.
Le centre,
dit le cardinal Mustapha avec un profond dédain.
Écartez-vous,
ordonna le conseiller Albedo.
Ou bien quoi ?
Le grand inquisiteur rit.
Ou bien vous me torturerez comme vous torturez cette femme induite en erreur? Ou bien vous me ferez de nouveau battre à mort par votre monstre?
Mustapha fit passer son bras au travers du torse tendu de Némès, puis de la forme dure d'Albedo. Le grand inquisiteur rit et se tourna vers Aîné.
N'importe comment,
Vous mourrez, enfant. Dites à cette créature dépourvue d'âme ce qu'il a besoin de savoir, et nous mettrons fin à vos souffrances en quelques secondes sans aucun...
Silence !
Cria Albedo, et il leva la main telle une serre recourbée. L'hologramme du cardinal Mustapha hurla, porta les mains à sa poitrine, tomba en travers de l'une des jambes de Némès, traversa la grille en passant par les pieds ensanglantés d'Ainé et la poutrelle de fer, cria de nouveau et disparut. Le cardinal Lourdussamy et Monsignor Oddi regardaient Albedo. Leur visage était inexpressif.
« Conseiller, »
dit le secrétaire d'État d'un ton doux, plein de respect.
« Pourrais-je l'interroger un moment ?»« Si nous ne réussissons pas, vous pourrez faire d'elle ce que vous voudrez. »
Albedo regarda froidement le cardinal. Mais après une seconde, il frappa Némès sur l'épaule et la machine à tuer recula de 3 pas et referma sa large bouche. Lourdussamy tendit le bras vers la main droite mutilée d'Ainé comme pour la prendre. Ses doigts holographiques s'enfoncèrent dans la chair déchirée de mon amour.
« Quod petis ?»
chuchota le cardinal. Et à 10 minutes-lumière de là, criant et me tordant dans mon réservoir à jet élevé, je le compris par l'entremise d'Ainé. « Que cherches-tu ?»«
Virtutes, » murmura Ainé.
« Concedemi virtutes, quibus indigeo paleum impere. »
Noyé dans la fureur, le chagrin et les fluides de mon réservoir à jet élevé en train de se répandre, accélérant toujours plus loin d'Ainé à chaque seconde, je compris la force, qu'on me donne la force dont j'ai besoin pour mener ceci, ma résolution, à bonne fin.
« Desiderium tuum grave est, »
murmura le cardinal Lourdussamy. « Ton désir est sérieux. »«
Quod ultra quaeris ?»«
Que cherches-tu d'autre ?» Ainé cligna son bon œil pour en chasser le sang, afin de distinguer le visage du cardinal.
« Quaero togam passem ?»
dit-elle doucement, d'une voix ferme. « Je cherche la paix. » Le conseiller Albedo rit de nouveau.
« Votre éminence, » dit-il d'une voix sarcastique, « croyez-vous que je ne comprends pas le latin ?»
Lourdussamy tourna les yeux vers l'homme gris.
« Au contraire, conseiller, je suis sûr que vous le comprenez. Elle va bientôt craquer, vous savez. Je le lis sur son visage. Mais ce sont les flammes qu'elle craint le plus. Pas l'animal auquel vous la livrez. »
Albedo parut sceptique.
« Donnez-moi 5 minutes avec les flammes, conseiller, » dit le cardinal. « Si cela échoue, lâchez votre bête sur elle. »
« 3 minutes, »
corrigea Albedo en prenant place près de la Némès qui avait labouré le visage d'Ainé. Lourdussamy recula de plusieurs pas.
« Enfant, »
dit-il en parlant de nouveau l'anglais du Retz.
« Cela va vous faire très mal, je le crains. »
Il remua ses mains holographiques et un jet de flamme bleue jaillit sous la grille, se transforma en une colonne qui brûla la plante nue des pieds immobilisés d'Ainé. La peau grilla, noircit et se racornit. L'odeur de chair brûlée remplit la cellule. Ainé hurla et tenta de se libérer des crampons. Ils demeurèrent inébranlables. La barre de fer suspendue à laquelle elle était attachée commença à rougir, faisant remonter la douleur le long de ses mollets et de ses cuisses nues. Elle sentit sa peau se cloquer là aussi. Elle cria de nouveau. Le cardinal Lourdussamy agita la main de nouveau et la flamme retomba sous la grille, devenant une veilleuse qui la regardait comme l'œil bleu d'un carnivore affamé.
« C'est seulement un avant-goût de la douleur que vous allez endurer, » murmura le cardinal. « Et malheureusement, quand on est gravement brûlé, la douleur persiste même après que la chair et les nerfs ont été irréparablement consumés. On dit que c'est la manière la plus douloureuse de mourir. »
Ainé grinça des dents pour s'empêcher de crier. Le sang tombait goutte à goutte des joues déchirées sur ses seins pâles. Ses seins que j'avais tenus et baisés, sur lesquels je m'étais endormi.
emprisonné dans ma crèche en jet élevé à des millions de kilomètres de là, me préparant à accélérer en C+ dans l'oubli que procure la fugue, je hurlais puis rageais en silence. Albedo s'avança sur la grille et dit à mon ami chéri
« Translatez-vous loin de tout cela. Translatez-vous dans le vaisseau qui emporte Roll vers une mort certaine et libérez-le. Translatez-vous dans le vaisseau du consul. L'auto-chirurgien vous soignera. Vous vivrez pendant des années avec l'homme que vous aimez. C'est cela ou une lente et terrible mort ici, et une mort lente et terrible pour Roll ailleurs. Vous ne le reverrez jamais plus. Vous n'entendrez plus sa voix. Translatez-vous, aîné. Sauvez-vous pendant qu'il en est encore temps. Sauvez celui que vous aimez. Dans une minute, cet homme va brûler la chair de vos jambes et de vos bras jusqu'à ce que vos os noircissent. Mais nous ne vous laisserons pas mourir. Je lâcherai Némès pour qu'elle se nourrisse de vous. Translatez-vous, aîné. Translatez-vous maintenant.
Aîné, dit le cardinal Lourdussami. Sigitur para tous.
Es-tu prête alors?
In nomine humanitur, ego para tous sum,
dit Aîné en le regardant dans les yeux avec son bon œil. Au nom de l'humanité, je suis prête. Le cardinal Lourdussami agita la main. Tous les jets de flammes s'élevèrent cette fois. Le feu engloutit ma chérie et le cibri d'Albedo. Aîné se tordit dans d'atroces souffrances lorsque la chaleur l'engloutit.
Non !
Cria Albedo au milieu des flammes, et il s'éloigna de la grille, sa chair synthétique, en brûlant, se détacha de ses faux os. Ses coûteux vêtements gris s'élevèrent vers le haut plafond en tampons d'étoffe enflammée, et ses beaux traits fondirent sur sa poitrine.
Non ! Maudit !
Cria-t-il de nouveau en tendant vers la gorge de Lourdussami des doigts embrasés. Les mains d'Albedo traversèrent l'hologramme. Le cardinal regardait fixement le regard d'Aîné au travers des flammes. Il leva la main droite.
« Misericordiam Dei, in nomine Patris et Filia et Spiritus Sanctus. »
Ce furent les derniers mots qu'Aîné entendit lorsque le feu se referma sur ses oreilles, sa gorge et son visage. Sa chair s'enflamma. Sa vision devint orange brillant et disparut lorsque ses yeux fondirent. Mais je sentis sa douleur durant les quelques secondes de vie qui lui restaient. Et j'entendis ses pensées comme un cri. Non, comme un chuchotement dans mon esprit.
Roll, je t'aime.
Puis la chaleur s'accrut. La douleur augmenta. Son sens de la vie, de l'amour, de sa mission, s'étendit. S'éleva au travers des flammes, comme la fumée qui montait vers la lucarne invisible du plafond. Et mon aîné chéri mourut. J'éprouvai la seconde de sa mort comme une implosion de toute vue, de tout son, et de l'essence du symbole. Tout ce qui, dans l'univers, valait la peine d'aimer et de vivre, disparut à cette seconde. Je ne criais plus. Je cessais de frapper les parois de mon réservoir en jet élevé. Je flottais en apesanteur, sentant le conteneur se vider, sentant les drogues et les ombilicaux de la fugue cryotechnique pénétrer en moi comme des vers dans ma chair. Je ne luttais pas. Je m'en moquais. Aînée était morte. Le vaisseau torche se translata à l'état quantique. Quand je me réveillais, j'étais dans la cellule de mort de la boîte à chat de Schrödinger. Cela n'avait aucune importance. Aînée était morte. Chapitre 32. Il n'y avait ni pendule ni calendrier dans ma cellule. Je ne sais pas pendant combien de jours, de semaines ou de mois je suis resté dépourvu de raison. J'ai peut-être passé de nombreux jours sans dormir, ou bien j'ai dormi pendant des semaines d'affilée. C'est difficile ou impossible à dire. Mais pour finir, comme le cyanure et les lois de la probabilité quantique continuaient à m'épargner de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute,
je commençais ce récit. J'ignore pourquoi mes geôliers m'ont fourni un scripteur de texte et un stylet, ainsi que la possibilité d'imprimer quelques pages sur du micro-vélin recyclé. Peut-être y voyait-il la possibilité pour l'homme condamné d'écrire sa confession ou d'utiliser cela comme un moyen impuissant de se déchaîner contre ses juges et ses geôliers. Ou bien inciter le condamné à écrire ses péchés et ses blessures, ses joies et ses pertes de joie, constituait-il à leurs yeux une possibilité de punition supplémentaire? Et peut-être, d'une certaine manière, était-ce vrai? Mais ce fut aussi mon salut. D'abord, cela me tira de la folie et de l'autodestruction d'un chagrin et de remords incontrôlables. Puis cela préserva mes souvenirs d'aîné, me permit de tirer du bourbier l'horreur de sa mort atroce jusqu'au terrain plus ferme de nos jours passés ensemble, sa joie de vivre, sa mission, nos voyages et son message complexe mais terriblement direct, adressé à moi et à toute l'humanité. Pour finir, cela me sauva simplement la vie. Peu après le début de mon récit, je découvris que je pouvais partager les pensées et les actions de tous les participants de notre longue odyssée et de la lutte qui avait échoué. Je savais que cela faisait partie de ce qu'aîné m'avait enseigné par la discussion et la communion, tel l'apprentissage du langage des morts et de celui des vivants. Je rencontrais encore les morts dans mon sommeil et dans mes rêves éveillés. Ma mère me parlait souvent. Et je connus la douleur et la sagesse d'innombrables autres êtres qui avaient vécu et étaient morts longtemps auparavant, mais ce n'étaient pas ces âmes perdues qui m'obsédaient maintenant. C'étaient ceux possédant une vision parallèle à mes propres expériences durant toutes ces années où je connus aîné. Jamais durant mon attente de la mort dans la boîte à chat de Schrödinger, je crus que je pouvais entendre les pensées actuelles de ceux qui vivaient hors de ma prison. Je supposais que la coquille d'énergie vitrifiée de l'œuf orbital empêchait cela. Mais j'appris bientôt comment faire taire la clameur de toutes ces innombrables voix anciennes résonnant dans le vide qui lit, et me concentrer sur les souvenirs de ceux, morts aussi bien que vivants, qui avaient pris part à l'histoire d'aînés. Je pénétrais ainsi certaines des pensées, certains des motifs, d'humains si différents de moi, qu'ils auraient pu être des créatures extraterrestres, les cardinaux Simon Augustino Lourdussami et John Domenico Mustafa, Lennart Hoyt dans ses incarnations, le pape Jules et le pape Urbain XVI, les négociants du Mercantilus comme Kenzo Isozaki et Anna Pelliconiani, des prêtres et des guerriers comme le père de Soya, le sergent Gregorius, le capitaine Margaret Wu et le second Hogan Liebler. Certains des personnages de mon histoire sont présents dans le vide qui lit comme des cicatrices, des trous, des vides. Les Némès sont des vides, ainsi que le conseiller Albedo et les autres entités du centre. Mais je devins capable de retracer certains mouvements, certaines actions de ces êtres simplement par le déplacement de cette vacance dans la matrice de l'émotion sentiente qu'est le vide, tout comme on peut voir le contour d'un homme invisible sous une forte pluie. Ainsi, en combinant cela avec les doux murmures des morts, je pus reconstituer le massacre des innocents par Adamant Némès sur sol Draconis Septem et entendre les sifflements chuintants, voire les actions mortelles de Scylla, Gigès, Briaré et Némès sur Vitus Grey Balianus B. Mais si détestables et éprouvantes que fussent pour moi ces descentes dans la vacuité morale et le cauchemar mental, elles étaient compensées par le goût retrouvé de la cordialité d'amis comme Demloa, Demria, le père Glaucus, Etmastine, Abétique et tous les autres. Beaucoup de ceux qui participèrent à cette histoire, je les ai recherchés dans mes propres souvenirs. Des gens merveilleux comme l'homo Dondrube, que je vis pour la dernière fois s'envoler avec ses ailes de pure lumière, en route pour sa vaillante lutte désespérée contre les vaisseaux de guerre de la Pax, et Rachel, vivant la deuxième des nombreuses vies qu'elle était destinée à remplir d'aventures, et la royale Dorje Famo, et le sage petit Dalai Lama. De cette manière, je me servais du vide qui lit pour entendre ma propre voix, pour clarifier mes souvenirs au-delà de la capacité et de la clarté de la mémoire, et en ce sens, je me suis souvent vu comme un personnage mineur de ma propre histoire, un disciple pas très intelligent, réagissant au lieu de mener, souvent incapable de poser les questions qu'il aurait dû poser, ou acceptant des réponses trop insuffisantes. Mais je vis aussi le rôle endymion mal dégrossi de l'histoire,
comme un homme découvrant l'amour avec une personne qu'il avait attendue toute sa vie. Et en ce sens, son empressement à suivre sans poser de questions était souvent contrebalancé par sa capacité à donner sa vie, en un instant, pour son cher amour. Bien que je sache, sans le moindre doute, qu'Énée est morte, je n'ai jamais cherché sa voix dans le cœur de ceux qui parlent le langage des morts. Mais j'ai senti sa présence dans le vide qui lit, senti son contact dans les esprits et les cœurs de tous les gens bien qui ont traversé notre Odyssée, ou dont la vie fut transformée à jamais par notre longue lutte avec la Pax. Tout comme j'ai appris à réduire la clameur insensée du cœur des morts et à en extraire des voix spécifiques, j'ai compris que souvent je visualisais ces résonances humaines dans le vide, sous la forme d'étoiles, certaines faibles mais visibles quand on savait où regarder, d'autres éclatantes comme des supernovas, d'autres encore en combinaison binaire avec d'autres âmes antérieurement vivantes, ou fixées à jamais dans une constellation d'amour et de relations avec des individus spécifiques. D'autres, comme Mustapha, Lourdussami et Hoyt, consumés, condamnés à l'implosion par la terrible force gravitationnelle de leur ambition, de leur avidité ou de leur soif de pouvoir, leur rayonnement humain disparaissant presque, tandis qu'ils s'effondraient dans les trous noirs de l'esprit. Mais Énée n'était pas l'une de ces étoiles. Elle était comme la lumière du soleil qui nous entourait durant la promenade que nous fîmes par un jour chaud de printemps dans les prairies, au-dessus de Taliesin West, constante, diffuse, s'écoulant d'une unique source mais réchauffant toute chose et tout être autour d'elle, source de vie et d'énergie. Comme lorsque l'hiver vient ou que la nuit tombe, l'absence de cette lumière apporte le froid, l'obscurité, et alors nous attendons le printemps, le matin. Mais je savais qu'il n'y aurait plus de matin pour Énée, plus de résurrection pour elle et pour notre amour. Le grand pouvoir de son message, c'était que la résurrection de la Pax, mensongère, était aussi stérile que les injections de limitation des naissances exigées et administrées par la Pax. Dans un monde fini de prétendus immortels, il n'y a presque plus de place pour des enfants. L'univers de la Pax était ordonné et statique, immuable et stérile. Les enfants apportent le chaos et la pagaille, un potentiel infini d'avenir qui était un anathème pour la Pax. En pensant à cela et en réfléchissant au dernier don qu'Énée m'avait fait, l'antidote à l'implant anticonceptionnel de la Pax, je me demandais si cela avait été, à l'origine, un geste métaphorique. J'espérais qu'Énée n'avait pas suggéré que je l'utilise vraiment, que je trouve un autre amour, une épouse, que j'ai des enfants avec quelqu'un d'autre. Au cours de l'une de nos nombreuses conversations, elle et moi avions discuté de cela, je me souviens que nous étions assis dans le vestibule de son abri près de Taliesin et que le vent du soir nous apportait le parfum des yucca et des primes verts. Nous avons parlé de cette étrange élasticité du cœur humain, capable de découvrir de nouvelles relations, de nouvelles personnes avec qui partager sa vie, de nouvelles potentialités. Mais j'espère que le don de fécondité qu'Énée me fit dans ces dernières minutes passées ensemble dans la basilique Saint-Pierre était une métaphore du don plus étendu qu'elle avait déjà fait à l'humanité, du choix du chaos et de la pagaille et de merveilleuses options invisibles. Si c'était un don littéral, si elle me suggérait de découvrir un nouvel amour, d'avoir des enfants avec une autre femme, alors Énée ne m'avait pas du tout compris. Durant la rédaction de ce récit, j'avais bien trop vu, par les yeux de bien trop de gens, que Roland Dimion était un type assez aimable, digne de confiance, maladroitement brave à l'occasion, mais pas connu pour son intuition ou son intelligence. Pourtant, j'étais assez malin et assez doué de pénétration, du moins en mon âme, pour savoir avec certitude que cet unique amour suffisait à ma durée de vie, et je commençais à comprendre, tandis que les jours et les semaines, et presque certainement les mois, passaient dans la cellule de la mort sans que celle-ci arrive, que si je revenais miraculeusement dans l'univers des vivants, je chercherais de nouveau la joie, le rire et l'amitié, mais pas une ombre pâle de l'amour que j'avais éprouvé. Pas d'enfant, non ? Pendant les quelques jours merveilleux où je rédigeais ce texte, je réussis à me convaincre qu'Énée était revenue d'entre les morts. Je venais juste d'atteindre la partie de mon récit où nous étions arrivés sur l'ancienne terre, en franchissant le distance du bosquet de Dieu, après le terrible combat avec la première Némès, et je l'avais achevé par une description de notre découverte de Taliesin Ouest. Après la fin de la rédaction de cette première partie de notre histoire, je rêvais qu'Aîné était ici, dans la cellule de la mort, qu'elle m'appelait par mon nom dans l'obscurité, me touchait la joue, me chuchotait « Nous allons partir d'ici, Roll, mon chéri. Pas tout de suite, mais dès que tu auras terminé ton histoire. Dès que tu te seras souvenu de tout et que tu auras tout compris. » Quand je me réveillais, je découvris que le scripteur était activé et vit, sur ses pages, l'écriture personnelle d'Aîné. Il y avait une longue lettre d'elle, y compris des citations tirées des poèmes de son père. Pendant des jours, des semaines, je restais convaincu qu'il s'agissait d'une vraie visitation. Un miracle, comme les apparitions de Jésus à ses premiers disciples, après son exécution, qui furent ensuite rapportées avec insistance par les apôtres, et je repris fiévreusement mon travail, acharné à tout voir, tout rapporter, et tout comprendre. Mais le processus prit encore des mois, et pendant ce temps, j'en vins à me rendre compte que la visite d'Aîné avait dû être aussi quelque chose d'autre. C'était peut-être, presque certainement, la première fois où je réussissais à entendre son chuchotement parmi les voix des morts du vide. Ou peut-être, d'une façon ou d'une autre, s'agissait-il d'un vrai message d'elle, enregistré dans la mémoire du scripteur, et conçu pour se déclencher quand j'écrirais ces pages. Ce n'était pas impossible. Une chose certaine, c'était la capacité de ma chère amie à entrevoir le futur, les futurs, comme elle le disait toujours en soulignant le pluriel. Il lui était possible de mettre en mémoire cette belle lettre dans un scripteur et de veiller, je ne sais comment, à ce que cet instrument soit inclus dans ma boîte à chat de Schrödinger. Ou bien, et cette explication j'en suis venu à l'accepter, j'ai moi-même rédigé cette lettre. Parce qu'à force de poursuivre son essence dans le vide et dans mes propres souvenirs, je m'immergeais totalement dans la persona d'Aîné. Je devins possédé par elle, serait peut-être plus exact. Cette théorie est la moins plaisante, mais elle se conforme mieux à la seule vision qu'Aîné exprima de la vie après la mort, basée plus ou moins sur la tradition judaïque qui croit que les gens ne continuent à vivre que dans les cœurs et les souvenirs de ceux qu'ils ont aimés, de ceux qu'ils ont servis, de ceux qu'ils ont sauvés. En tout cas, j'écrivis pendant des mois. Je commençais à entrevoir la véritable grandeur, et la futilité, de la quête courageuse et du sacrifice désespéré d'Aîné. Puis je terminais ce gribouillage frénétique, trouvais le courage de décrire la terrible mort d'Aîné et mon impuissance, pleurais en imprimant les dernières pages de Microvélin, les lus, les recyclais, ordonnais au scripteur de garder la totalité du récit dans sa mémoire, et éteignit le stylet pour ce que je croyais être la dernière fois. Aîné ne m'apparut pas. Elle ne me libéra pas. Elle était morte. Je sentais son absence de l'univers aussi clairement que j'avais senti n'importe quelle résonance du vide qui lit depuis ma communion. Je me couchais dans ma boîte à chat de Schrödinger, essayais de dormir, oubliais de manger, et attendis la mort. Certaines de mes explorations parmi les voies des morts m'avaient mené à des révélations sans rapport direct avec mon récit. Certaines étaient personnelles et privées, rêve éveillé de mon père mort depuis longtemps en train de chasser avec ses frères, par exemple, aperçu de la générosité de cet homme tranquille que je n'avais jamais connu, ou des chroniques de cruauté humaine qui, comme les souvenirs de Jacob Schulman du XXe siècle oublié, agissait seulement en tant que sujet sous-jacent de ma compréhension plus approfondie des barbaries d'aujourd'hui. Mais d'autres voix. J'avais terminé le récit de ma vie avec Aîné et j'attendais la mort, passant de plus en plus de temps à dormir, espérant que l'événement quantique décisif se produirait pendant mon sommeil, conscient de la présence du texte dans la mémoire de mon scripteur, et me demandant vaguement si quelqu'un trouverait jamais le moyen de traverser la coque conçue pour exploser en cas de crochetage, et trouverai un jour mon texte, peut-être dans des siècles. Je me rendormis et fis ce rêve. Je sus tout de suite que cette danse du front d'onde des possibilités n'était pas un rêve normal, mais l'appel d'une voix des morts. Dans mon rêve, le consul de l'hégémonie jouait sur son Steinway, sur le balcon de son astronef noir comme l'ébène, de ce vaisseau que je connaissais si bien, pendant que de grandes créatures vertes, sauriennes, se pressait et mugissait dans les marécages voisins. Il jouait du Schubert. Je ne reconnus pas le monde qui s'étendait au-delà du balcon,
mais c'était un endroit plein d'immenses plantes primitives, de menaçants nuages d'orage et d'effrayants rugissements d'animaux. Le consul était plus petit que je me l'étais toujours imaginé. Quand il eut terminé son morceau, il resta silencieux un moment dans l'aube naissante jusqu'à ce que le vaisseau parle avec une voix que je ne reconnus pas, une voix plus intelligente, plus humaine.
« Très beau, »
dit-il. « Vraiment très beau. »
« Merci, John, » répondit le consul qui se leva du tabouret et ramena le balcon dans le vaisseau avec lui.
Il commençait à pleuvoir.
« Vous voulez toujours aller à la chasse ce matin ?»
demanda la voix désincarnée qui n'était pas celle du vaisseau telle que je la connaissais.
« Oui, c'est une chose que je fais ici de temps à autre. »
« Vous aimez le goût de la viande de dinosaure ?» demanda l'IA du vaisseau.
« Pas du tout. » Elle est presque immangeable. C'est la chasse qui me plaît.
Vous voulez parler du risque, dit le vaisseau.
Cela aussi. Le consul eut un petit rire. Bien que je m'en moque.
Mais si demain vous ne reveniez pas de la chasse,
demanda le vaisseau. Sa voix, celle d'un jeune homme, était empreinte de l'accent anglais de l'ancienne terre. Le consul haussa les épaules.
Nous avons passé combien ? Plus de 6 années à explorer les planètes de l'ancienne hégémonie. Nous connaissons le schéma. Chaos, guerre civile, famine, fragmentation. Nous avons vu les fruits de la chute du système d'Istrance.
Pensez-vous que Gladstone a eu tort d'ordonner cette destruction ? Demanda doucement le vaisseau. Le consul s'était servi un cognac au buffet et l'emportait maintenant à la table du jeu d'échecs près de la bibliothèque. Il s'assit et regarda les pièces de la partie déjà engagée.
« Pas du tout. Elle a fait ce qu'il fallait, mais le résultat est sinistre. Il faudra des dizaines d'années, peut-être des siècles, avant que le Retz commence à se retisser sous une forme nouvelle. »
Il réchauffait son cognac et le remuait doucement tout en parlant. Puis il le huma et but une gorgée. Levant les yeux, le consul dit «
Aimeriez-vous terminer cette partie avec moi, John ? »
L'hologramme d'un jeune homme apparut dans le fauteuil qui lui faisait face. Il était d'une beauté saisissante, des yeux noisettes clairs, un front bas, des joues creuses, un petit nez vigoureux et une mâchoire opiniâtre, une large bouche qui suggérait à la fois une virilité calme et un brin de pugnacité. Il portait une blouse vague et un pantalon noir. Sa chevelure au burn était épaisse et très frisée. Le consul savait que son invité s'était une fois décrit comme ayant un visage animé, charmeur, et il attribuait cela à une mobilité d'expression qui tenait à la grande intelligence et à la vitalité du jeune homme.
« À vous de jouer, » dit John.
Le consul étudia ses options durant plusieurs minutes, puis déplaça le fou. John réagit aussitôt, montrant du doigt un pion que le consul avança pour lui. Le jeune homme leva des yeux empreints d'une curiosité sincère.
« Et si demain vous ne reveniez pas de la chasse ? » répéta-t-il doucement.
Tiré de sa rêverie, le consul sourit.
« Alors le vaisseau est à vous, ce qu'il est déjà visiblement. »
Il fit reculer son fou.
« Que feriez-vous, John, si cela devait mettre fin à nos voyages ?»
John fit un geste pour que son adversaire avance sa tour, avec la même rapidité qu'il répondit «
Je le ramènerai sur Hyperion.
Je le programmerai pour le rendre à Brand si tout se passe bien. Ou peut-être à Martin Silenus, si le vieil homme est toujours vivant et travaille à Sekantos. Le programmer ?
Souligna le consul en regardant l'échiquier, les sourcils froncés.
Vous voulez dire que vous allez abandonner l'IA du vaisseau ?
Il déplaça son fou en diagonale.
Oui,
répondit John en montrant le pion qu'il fallait avancer.
« Je le ferai dans quelques jours, n'importe comment. »
Les sourcils encore plus froncés, le consul regarda l'échiquier, puis l'hologramme assis en face de lui, puis de nouveau l'échiquier.
« Où irez-vous »
dit-il en déplaçant sa reine afin de protéger son roi.
« Je reviendrai au centre, » répliqua John en déplaçant la tour de Decaz. « Pour affronter de nouveau celui qui vous a créé ?»
demanda le consul, attaquant de nouveau avec son fou. John fit non de la tête. Il se tenait très droit et avait l'habitude de libérer son front de ses boucles d'un élégant mouvement de la tête en arrière.
« Non, »
répondit-il d'une voix douce,
« pour foutre le bordel entre les entités du centre. Pour accélérer les guerres civiles interminables et les rivalités meurtrières. Pour être ce que mon modèle a été dans la communauté des poètes, un agent irritant. »
Il montra où il voulait que soit déplacé le cavalier qui lui restait. Le consul réfléchit à ce mouvement, trouva qu'il ne le mettait pas en danger, et regarda son fou en fronçant les sourcils.
« Pour quelle raison ? » finit-il par dire.
John sourit de nouveau et désigna la case où sa tour devait apparaître.
« Ma fille aura besoin d'aide dans quelques années. »
Il eut un petit rire.
« Dans 270 ans environ. Échec et mat. »«
Hein ?»
dit le consul surpris, et il étudia l'échiquier.
« Ce n'est pas possible. »
John attendit.
« Bon Dieu !»
jura enfin le consul de l'hégémonie en renversant son roi d'une chiquenaude.
« Foutu bon Dieu de merde !»«
Oui, »
répondit John en tendant la main.
« Merci pour cette agréable partie, et j'espère bien que la chasse de demain tournera mieux pour vous. »«
Bon sang !»
dit le consul, et sans réfléchir, il tenta de serrer la main aux doigts effilés de l'hologramme. Pour la centième fois, ses doigts solides traversèrent la paume chimérique de son compagnon.
« Ah, bon sang !»
répéta-t'il. Ce soir-là, dans la cellule de Schrödinger, je me réveillais avec ce mot résonnant dans mon esprit. L'enfant. Savoir qu'Aîné avait été marié avant notre relation était devenu une liaison amoureuse à part entière. Savoir qu'elle avait donné naissance à un enfant avait brûlé mon âme et mes boyaux comme une braise douloureuse, mais sauf ma curiosité presque obsessionnelle, qui et pourquoi, curiosité restée insatisfaite malgré les questions posées à Abétic, Rachel et d'autres qu'il avait vus partir durant leur odyssée commune, mais qui n'avaient aucune idée de l'endroit où elle s'était rendue, ni en compagnie de qui, je n'avais pas réfléchi au fait que cet enfant vivait quelque part dans l'univers que j'habitais. Son enfant. Cette pensée me donna envie de pleurer pour plusieurs raisons. L'enfant est dans un endroit où je ne peux pas le retrouver en ce moment, avait dit Aîné. Où pouvait-il être maintenant? Quel âge avait-il? Je m'assis sur ma couchette dans la boîte à chat de Schrödinger et réfléchis. Aîné avait seulement 23 ans quand elle était morte. Rectification, quand elle avait été brutalement assassinée par le centre et ses marionnettes de la Pax. À 20 ans, elle avait disparu pendant une année, 11 mois, une semaine et 6 heures. Donc l'enfant devait avoir environ 3 ans standard, plus le temps que j'avais passé ici dans l'œuf d'exécution de Schrödinger, 8 mois, 10. Je l'ignorais tout simplement, mais s'il était encore vivant, il ou elle, mon Dieu, je n'avais jamais demandé à Aîné si son bébé était un garçon ou une fille, et elle ne l'avait jamais précisé, la seule fois que nous en avions parlé. Ma souffrance et cette impression enfantine d'injustice m'avait tellement submergé que je n'avais pas pensé à l'interroger. Quel idiot j'étais. L'enfant, le fils ou la fille d'Aîné, devait avoir environ 4 ans standard. Qu'il marchait, certainement. Il parlait. Oui. Mon Dieu, son enfant devait être un humain rationnel, qui parlait et posait des questions. Pas mal de questions si mes expériences en tant que jeune enfant pouvaient constituer une indication. Il apprenait à randonner, à pêcher et à aimer la nature. Je n'avais jamais demandé à Aîné le nom de son enfant. Mes yeux me brûlaient et ma gorge me serrait en reconnaissant douloureusement ce fait. Je le répète, elle ne s'était jamais montrée encline à parler de cette période de sa vie et je ne m'étais pas montré assez curieux, me disant durant les semaines que nous avions passées ensemble après cette révélation, que je ne voulais pas la contrarier avec des questions qui la culpabiliseraient et me feraient perdre la tête. Mais Aîné n'avait montré aucune culpabilité quand elle m'avait brièvement mis au courant de son mariage et de l'existence de son enfant. Pour être franc, c'est en partie à cause de cela que je m'étais senti si furieux et si impuissant. Mais chose incroyable, cela ne nous avait pas empêchés de rester amants. Comment cela était-il exprimé dans le petit mot que j'avais trouvé sur l'écran de mon scripteur quelques mois auparavant, dans la lettre qui certainement était d'Aîné? des amants que chanteraient les poètes. C'était ça. Savoir qu'elle avait été mariée et avait eu un enfant ne nous avait pas empêchés d'éprouver l'un pour l'autre un sentiment que personne d'autre ne nous avait jamais inspiré. Peut-être pas dans son cas, me dis-je. J'avais toujours supposé que son mariage était le résultat d'un soudain désir amoureux, d'une impulsion, mais maintenant j'envisageais cela sous un nouveau jour. Qui était le père ? Le petit mot d'aîné disait qu'elle m'avait toujours aimé. C'est précisément en ces termes que j'avais découvert ce que j'éprouvais pour elle. C'était comme si je l'avais toujours aimé, comme si j'avais attendu toute ma vie de découvrir la réalité de cet amour. Et si le mariage d'aîné n'avait pas été un mariage d'amour ou de passion, mais de convenance ? Non, ce n'était pas le bon mot. Une nécessité. Les Templiers, les Extros, l'église du culte Grichtec de l'expiation finale et d'autres encore avaient prophétisé que la mère d'aîné, Braun Lamia, aurait un enfant, celle qui enseigne, aînée, comme il advint. Selon les cantos du vieux poète, le jour où le second hybride de John Keats était mort d'une mort physique et où Braun Lamia s'était battu pour pouvoir se réfugier dans le temple du Gritch, les fidèles de ce culte avaient chanté « Que soit bénie la mère de notre salut, que soit béni l'instrument de notre expiation, l'expiation étant aînée elle-même. » Et s'il avait fallu qu'aîné ait un enfant pour continuer cette lignée de prophètes, de messie? Je n'avais jamais eu connaissance d'une prophétie portant sur une autre personne descendant d'aîné, mais j'avais découvert quelque chose d'indiscutable durant les mois passés à écrire sa vie. Roland Dimion était lent et obtus, généralement le dernier à comprendre. Peut-être y avait-il eu autant de prophéties d'un autre qui enseigne que celles précédant l'arrivée d'aîné. Ou peut-être cet enfant aurait-il des intuitions et des pouvoirs complètement différents de ceux que l'univers et l'humanité avaient attendus. Il était évident que je ne serais pas le père d'un second messie. L'union du second hybride de John Keats et de Braun Lamia avait été, d'après les explications d'aîné, la grande réconciliation entre les meilleurs éléments du technocentre et de l'humanité. Il avait fallu les capacités et les perceptions des IA et des êtres humains pour créer un hybride capable de voir directement dans le vide qui lit, pour que l'humanité apprenne enfin le langage des morts et celui des vivants. L'empathie était l'autre nom de cette capacité, et aîné avait été l'enfant de l'empathie, si un titre pouvait la définir. Quel pouvait être le père de son enfant ? La réponse me frappa comme un éclair. Pendant une seconde, là, dans la boîte à chat de Schrödinger, je fus si secoué par sa logique que je crus que le détecteur de particules qui cliquetait régulièrement dans la paroi d'énergie gelée de ma prison avait détecté l'émission exactement au bon moment et que le cyanure avait été relâché. Quelle ironie d'arriver à comprendre les choses juste au moment de mourir. Mais ce n'était pas le poison dans l'air. Seulement la force croissante de ma certitude touchant ce sujet et l'impulsion plus forte encore d'engager une certaine action. Il y avait un autre joueur dans la partie d'échecs cosmiques qu'aîné et les autres jouaient depuis 3 siècles standards. Cet observateur presque mythique, envoyé par des races sentientes étrangères, qu'aîné avait brièvement mentionné dans plusieurs contextes différents. Les lions, les tigres et les ours, ces êtres si puissants qu'ils pouvaient transporter l'ancienne Terre jusqu'au petit nuage de Magellan, pour ne pas l'avoir détruite, avaient, d'après aîné, envoyé parmi nous, depuis quelques siècles, un ou plusieurs observateurs, des entités qui, d'après mon interprétation de ce qu'aîné avait dit, prenaient une forme humaine et vivaient parmi nous depuis tout ce temps. Cela avait été relativement facile durant l'ère de la Pax, où l'immortalité virtuelle du cruciforme s'était tellement répandue. Et il y en avait sûrement d'autres qui, comme l'ancien poète Martin Silenus, demeurèrent vivants grâce à une conjugaison de la médecine du Retz, des traitements Poulsen et d'une pure détermination. Martin Silenus était vieux, certes, peut-être l'être humain le plus vieux de la galaxie, mais il n'était certainement pas un observateur. L'auteur des cantos semblait trop arrêté dans ses opinions, trop actif, trop connu d'un large public, trop obscène, et en général, trop querelleur pour être le froid observateur, représentant de races étrangères si puissantes qu'elles pouvaient nous détruire en un clin d'œil. Ou du moins l'espérais-je. Mais quelque part, probablement dans un endroit que je n'avais jamais visité et que j'étais incapable d'imaginer, l'observateur attendait et regardait sous une forme humaine. Cela expliquait qu'Aîné ait pu être poussée à la fois par les prophéties et la nécessité de la libre évolution humaine qu'elle avait enseignée et à laquelle elle croyait, à se translater en plein milieu de son odyssée jusqu'à ce monde lointain où l'observateur l'attendait, à le rencontrer, à s'accoupler avec lui et à ramener cet enfant dans l'univers. Cela réconcilierait le centre, l'humanité et les lointains extros. L'idée était inquiétante, gênante pour moi, mais aussi très excitante, et rien ne m'avait donné cette impression depuis la mort d'Aîné. Je connaissais Aîné. Son enfant serait humain, plein de vie, de rire et d'amour pour tout, de la nature au vieux holodrame. Je n'avais jamais compris comment mon amie avait pu laisser son enfant, mais maintenant je savais qu'elle n'avait pas eu le choix. Elle connaissait le terrible destin qui l'attendait dans le cachot des caves du château Saint-Ange. Elle savait qu'elle mourrait par le feu et la torture, entourée d'ennemis inhumains et de monstres. Elle avait su cela avant sa naissance. Cette pensée fit plier mes genoux. Comment ma chère amie avait-elle pu rire avec moi si souvent, accueillir les jours nouveaux avec tant d'optimisme, célébrer si totalement la vie, alors qu'elle savait que chaque jour qui passait la rapprochait d'une mort aussi horrible. Je secouai la tête devant la force de volonté que cela impliquait. Je ne l'avais pas cette force, je le savais. Aîné, si. Mais elle n'avait pas pu garder l'enfant, sachant quand et comment cette terrible fin aurait lieu. Alors probablement que le père l'élevait. L'autre, sous sa forme humaine. L'observateur. Je trouvais cela encore plus affligeant que mes autres révélations. L'idée me vint alors, avec une certitude encore plus grande, qu'Aîné aurait voulu que je tienne un rôle dans la vie de son enfant si elle avait pensé cela possible. Ses propres aperçus des futurs potentiels se terminaient sans doute avec sa propre mort. Peut-être ne savait-elle pas que je ne serais pas exécuté en même temps qu'elle. Non, car alors elle ne m'aurait pas demandé d'éparpiller ses cendres sur l'ancienne terre, ce qui supposait que je lui survive. Peut-être avait-elle estimé que c'était trop me demander, que je retrouve son enfant et que je l'aide du mieux possible, lorsque le petit garçon ou la petite fille grandirait, que je le protège dans un univers aux angles pointus. Je m'aperçus que je pleurais, pas doucement, mais avec de gros sanglots rageurs. C'était la première fois que je pleurais depuis la mort d'Aîné, et curieusement, ce n'était pas à cause du chagrin que me causait son absence, mais à l'idée de cette seconde possibilité de tenir un enfant par la main, comme je l'avais fait avec Aîné quand elle avait 12 ans standard, de protéger cet enfant de ma bien-aimée, comme j'avais tenté de la protéger, elle. Et échoué. L'acte d'accusation était mien. Oui, je n'avais pas su protéger Aîné à la fin, mais elle savait que j'échouerais, qu'elle échouerait dans sa tentative d'abattre la Pax. Elle m'avait aimé et avait aimé la vie tout en sachant que nous finirions par échouer. Il n'y avait pas de raison que j'échoue avec cet autre enfant. Peut-être l'observateur accepterait-il volontiers mon aide, que je partage mon expérience humaine avec ce petit garçon ou cette petite fille, certainement plus qu'humain. Je pouvais dire que personne n'avait mieux connu Aîné que moi. Ce serait important pour l'éducation de l'enfant du nouveau Messie. J'apporterai ce récit, qui reposait maintenant inutile dans mon scripteur, j'en partagerai des bribes avec l'enfant tandis qu'il grandirait, et je lui donnerai entièrement un jour. Je pris l'ardoise et le scripteur et me mis à marcher de long en large dans ma cellule de Schrödinger. Il y avait cette petite question de mon inévitable exécution. Personne ne viendrait me sauver. La coquille explosive de l'œuf en avait décidé ainsi, et s'il y avait eu moyen de contourner cet obstacle, quelqu'un serait déjà venu. C'était déjà invraisemblable, une chance inespérée d'avoir survécu si longtemps alors que toutes les heures se produisait un autre coup de dé avec la mort et que le détecteur reniflait pour sentir l'émission de la particule. J'avais battu les lois de la probabilité quantique pendant si longtemps que la chance ne pouvait plus durer. Je m'arrêtais d'arpenter ma cellule. Il y avait eu 4 étapes dans l'enseignement d'Aîné sur les nouvelles relations de notre race avec le vide qui lie. même avant d'arriver dans ma cellule, j'avais pratiqué, sinon maîtrisé, l'apprentissage du langage des morts et des vivants. J'avais montré, dans la rédaction du récit, que je pouvais avoir accès au vide pour recueillir au moins les anciens souvenirs de ceux qui vivaient encore, même si la coque interférait d'une manière ou d'une autre, avec ma capacité de sentir ce qui arrivait maintenant à des amis comme le père de Soya ou Rachel ou Lomo ou Martin Silenus. Était-ce une interférence? Peut-être avais-je refusé, au niveau subconscient, d'essayer d'entrer en contact avec le monde des vivants, au moins pour autre chose que les souvenirs d'aînés, parce que je savais que j'habitais le royaume des morts. Mais plus maintenant. Je voulais sortir. Il y avait deux autres étapes qu'Aîné avait mentionnées dans son enseignement, mais jamais vraiment expliquées. Entendre la musique des sphères et faire le premier pas. Je comprenais maintenant ces deux concepts. Sans voir Aîné se translater et sans ce grand élan de compréhension de la gestalte qui m'était venue de ce terrible partage de sa mort, je n'aurais pas compris. Maintenant, si. J'avais cru qu'entendre la musique des sphères était une espèce de radiotélescope paranormal, qu'on entendait vraiment le craquement et le sifflement des étoiles comme les radiotélescopes le faisaient depuis 11 siècles et plus. Mais ce n'était pas du tout de cela que parlait Aîné. Je le comprenais maintenant. Ce n'était pas les étoiles qu'elle écoutait, mais la résonance des gens, humains ou non, qui habitaient parmi et autour de ces étoiles. Elle utilisait le vide comme une espèce de balise directionnelle avant de se distranslater elle-même. La plupart de ces translations personnelles étaient pour moi dénuées de sens. Les distrances contrôlées par le centre avaient été des trous grossiers pratiqués dans le vide et donc dans l'espace-temps, gardés ouverts par les portails, agissant comme les clamps rudimentaires qui maintenaient écartés les bords à vif d'une plaie au temps ancien de la chirurgie au scalpel. La distranslation d'Aîné, je le comprenais maintenant, était un truc infiniment plus élégant. Je m'étais demandé, à l'époque d'hyperactivité où Aîné et moi descendions en translation libre à la surface des planètes et passions de système solaire en système solaire à bord de l'Yggdrasil, comment elle pouvait éviter de nous faire apparaître à l'intérieur d'une colline ou à 50 mètres en dessous de la surface ou de translater le vaisseau arbre à l'intérieur d'une étoile. Il me semblait que la translation libre était aussi aveugle et désastreuse qu'un saut non calculé en propulsion Hawking. Mais nous avions toujours émergé exactement à l'endroit où nous devions être lorsqu'Aîné nous translatait. Maintenant, je voyais pourquoi. Aîné entendait la musique des sphères. Elle se mettait en résonance avec le vide qui lit, qui à son tour résonnait avec la pensée et la vie sentiente, puis elle se servait de l'énergie presque illimitée du vide pour faire le premier pas, pour voyager par l'intermédiaire du vide jusqu'à l'endroit où ses voix l'attendaient. Aîné avait un jour dit que le vide exploitait l'énergie des quasars, des centres des galaxies en train d'exploser, des trous noirs et de la matière noire. Assez peut-être pour déplacer quelques formes de vie organique dans l'espace-temps et les déposer à l'endroit indiqué. L'amour était le moteur primordial de l'univers, m'avait dit un jour Aîné. Elle avait plaisanté en prétendant qu'elle était le Newton qui, un jour, expliquerait la physique fondamentale de cette source d'énergie largement inexploitée. Elle n'avait pas vécu pour le faire. Mais je voyais maintenant ce qu'elle voulait dire et comment ça marchait. La plus grande partie de la musique des sphères était créée par les harmonies et les changements d'accords élégants de l'amour. Se rendre en translation libre jusqu'à l'endroit où celle qu'on aimait vous attendait. Apprendre un endroit après y avoir voyagé avec celle ou ceux que l'on aimait. Aimer voir de nouveaux endroits. Brusquement, je compris pourquoi nos premiers mois ensemble avaient été ce qui, à l'époque, me paraissait d'inutiles errances de monde en monde par les portails d'Istrans. Marine Finitus, comme Riyad, Hébron, Sol Draconis Septem, la planète sans nom où nous avions laissé le vaisseau, toutes les autres, même l'ancienne Terre. Il n'y avait pas eu de portail d'Istrans en état de fonctionner. Aîné nous avait emmenés, Abétique et moi, jusqu'à ces endroits, pour les voir, les toucher, en humer l'air, sentir leur soleil sur sa peau, avec des amis, avec quelqu'un qu'elle aimait. Apprendre la musique des sphères afin de la jouer plus tard. Et ma propre odyssée en solitaire, pensais-je. La distranslation en kayak de l'ancienne Terre à Lusus et à la planète de nuages et à tous les autres endroits. Aîné avait fourni l'énergie nécessaire à cette translation. Elle m'avait envoyé là, afin que je puisse goûter ces planètes et les retrouver un jour par mes propres moyens. J'avais cru, même au moment où j'écrivais le récit dont le scripteur que je tenais maintenant sous le bras, là, dans la cellule de mort de Schrödinger, n'être qu'un compagnon de voyage dans une succession d'aventures picaresques. Mais tout cela avait un but. J'avais été un amant voyageant avec son aimé, ou vers son aimé, grâce à une partition musicale des mondes. Une partition que je devais apprendre par cœur afin de pouvoir la rejouer un jour. Je fermais les yeux dans ma boîte à chat de Schrödinger et me concentrais, puis dépassais la concentration pour atteindre un état de vacuité mentale, comme je l'avais appris dans la méditation sur Tien Shan. Chaque monde a son utilité. Chaque minute a son utilité. Dans ce vide pondéré, je m'ouvris au vide qui lit et à l'univers avec lequel il résonnait. Je compris que je n'aurais pas pu faire cela sans la communion au sang d'aîné, sans les organismes conçus par la nanotech qui maintenant résidaient dans mes cellules et résideraient dans les cellules de mes enfants. Non, pensais-je, pas de mes enfants, mais dans les cellules des membres de la race humaine qui échappent aux cruciformes, dans les cellules de leurs enfants. Je n'aurais pas pu faire cela sans l'avoir appris d'aîné. Je n'aurais pas pu entendre les voix que j'entendis alors, des cœurs plus nombreux que ceux captés auparavant, sans avoir poli ma grammaire et ma syntaxe du langage des morts et des vivants, pendant les mois où je travaillais à mon récit, dans l'attente de la mort. Je n'aurais pas pu faire cela si j'avais été immortel, je m'en rendis compte. Ce degré d'amour de la vie et d'un autre être est accordé, je le compris une fois pour toutes, non aux immortels, mais à ceux qui vivent brièvement et sont toujours dans l'ombre de la mort et du deuil. Tandis que je demeurais là, à écouter les cœurs plus nombreux et plus forts de la musique des sphères, capable maintenant de distinguer des voix d'étoiles dans ce cœur, celle de Martin Silenus, toujours vivant mais s'affaiblissant sur ma planète natale, Hyperion, celle de Théo sur la ravissante Alliance Maui, celle de Rachel sur le monde de Barnard, celle du colonel Kassad sur Mars la Rouge, celle du père de Soya sur Passem, et même les beaux cœurs des morts, celle de Demria sur Vitus Grebalianus B, du cher père Glaucus sur la froide Sol Draconis Septem, la voix de ma mère, de nouveau, sur la lointaine Hyperion. J'entendis aussi les paroles de John Keats, dites par sa voix, et celles de Martin Silenus, et celles d'Aîné. Mais c'est la vie humaine, la guerre, les hauts faits, le désappointement, l'inquiétude, l'imagination qui se débat, lointaine et proche. Oui, c'est humain, portant en eux ce bien. Ils sont encore l'air, la nourriture subtile, qui nous font sentir l'existence et nous montrent combien la mort est tranquille. Là où il y a de la terre, les hommes font pousser tant les herbes folles que les fleurs. Mais pour moi, pas de profondeur où s'enfoncer. Le contraire était vrai pour moi à cet instant. Il y avait plus qu'assez de profondeur où m'enfoncer. L'univers s'agrandit alors, la musique des sphères s'amplifia, passant d'un simple cœur à une symphonie aussi triomphante que la neuvième de Beethoven, et je sus que j'avais toujours été capable de l'entendre quand je le souhaitais ou quand j'en avais besoin, toujours capable de l'utiliser pour faire le pas dont j'avais besoin pour voir celle que j'aimais ou si j'échouais, afin de me rendre à l'endroit où j'avais été avec celle que j'aimais ou, si j'échouais, afin de trouver un endroit à aimer pour sa beauté et sa fertilité. L'énergie des quasars et des noyaux d'étoiles en train d'exploser m'emplit alors. Je fus emporté sur des vagues d'énergie encore plus belles et plus lyriques que les ailes des anges extraux que j'avais vus glisser le long des couloirs de lumière solaire. La coque d'énergie mortelle qui était ma prison et ma cellule d'exécution semblait risible maintenant. Plaisanterie originale de Schrödinger. Cordes à sauter d'enfants posées autour de moi sur le sol comme des murailles de contention. Je mis le pied hors de la boîte à chat de Schrödinger et du système d'Armagast. Pendant un instant, sentant les confins de ma prison s'effondrer autour de moi et derrière moi à jamais, existant nulle part et partout dans l'espace, mais demeurant physiquement intact dans mon corps, dans le stylet et le scripteur, Je fus pris d'un accès de pure euphorie aussi puissant et aussi vertigineux que la distranslation en solo. Libre. J'étais libre. La vague de joie fut si intense qu'elle me donna envie de pleurer, de crier dans la lumière du non-espace qui m'entourait, de joindre ma voix au cœur de celle des vivants et des morts, de chanter avec les symphonies des sphères, claires comme du cristal, qui s'élevaient et plongeaient comme des déferlantes autour de moi. Libre, enfin. Puis je me souvins que ma seule raison d'être libre, la seule personne qui donnait du prix à cette liberté, avait disparu. Aînée était morte. La pure joie de l'évasion s'évanouit soudain, totalement, remplacée par la simple et profonde satisfaction d'être enfin libre après tant de mois d'emprisonnement. L'univers avait peut-être, à mes yeux, perdu ses couleurs, mais au moins, maintenant, je pouvais aller où je voulais dans ce royaume monotone. Mais où aller? Flottant sur la lumière, en translation libre dans l'univers, mon stylet et mon scripteur fourrés sous mon bras, je ne l'avais toujours pas décidé. Hyperion? J'avais promis de retourner voir Martin Silenus. Je pouvais entendre sa voix résonner fortement dans le vide, sa voix passée et présente, mais elle ne ferait plus longtemps partie du cœur actuel. Ce qui lui restait de vie se comptait en jours, peut-être moins. Mais pas Hyperion. Pas encore. La biosphère de l'arbre étoile? Ce fut un choc d'apprendre qu'elle existait encore sous une certaine forme, bien que la voix de l'Homo fût absente de sa symphonie chorale. Cet endroit avait été important pour Aîné et pour moi, et j'y retournerai un jour. Mais pas maintenant. L'ancienne Terre? Chose étonnante, j'entendais très clairement la musique de cette sphère-là dans les ex-voix d'Aîné et dans la mienne, dans le chant des amis de Taliesin avec lesquels nous nous étions accordés. La distance ne signifie rien dans le vide qui lie. Là, le temps mûrit mais ne détruit pas. Mais pas l'ancienne Terre. Pas maintenant. J'entendais des douzaines de possibilités, des douzaines de voix que je voulais vraiment entendre, des gens que je voulais serrer dans mes bras et avec qui je voulais pleurer. Mais la musique à laquelle je réagissais le plus fortement maintenant venait du monde où Aîné avait été torturé et tué. Passem. Je savais qu'il n'y avait rien d'Aîné sur Passem que les cendres du passé. Mais elle m'avait demandé d'emporter ses cendres et de les disperser sur l'ancienne terre, les disperser là où nous avions ri et où nous nous étions aimés le mieux. Passem. Dans le tourbillon d'énergie du vide, ayant déjà mis le pied hors de la cellule de Schrödinger, mais existant nulle part ailleurs, sauf en tant que pure probabilité quantique, je pris ma décision et me distranslatai sur Passem.